Le 11 novembre, commémoré sur tout le territoire, à Nouméa, la cérémonie du souvenir était présidée par la ministre des Outre-mer. Naïma Moutchou, qui a ensuite entamé sa journée de discussion bilatérale, elle a reçu ce matin la délégation FLNKS. Le phare Amédée va s'illuminer à partir de ce soir. C'est le début des festivités pour fêter les 160 ans de son premier allumage, c'est-à-dire de sa mise en service. Nicolas Sarkozy retrouve la liberté après 20 jours passés dans une cellule de la prison de la santé. Le tribunal l'a placé sous contrôle judiciaire strict avant son procès en appel. En 2024, le ministre de l'économie de l'époque, Bruno Le Maire, avait averti le chef de l'État sur la dérive des comptes publics. Un courrier secret resté lettre morte qui provoque de vives critiques à l'égard d'Emmanuel Macron. Et puis en football, le FC Mulhouse jouera samedi le 7e tour de la Coupe de France face à l'AS Magenta au stade Numadelet. Vous entendrez dans la page sport l'entraîneur du club alsacien. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Nous sommes le mardi 11 novembre 2025, il y a 107 ans jour pour jour, dans un wagon-restaurant de Retonde en forêt de Compiègne, était signé l'armistice qui mettait un terme au combat de la Première Guerre mondiale, Lionel Sabot.
107 ans après, devant les monuments aux morts de toutes les communes de France, on se souvient et on rend hommage à ceux qui ont donné leur vie durant la Première Guerre mondiale et plus globalement depuis plusieurs années pour honorer l'ensemble des soldats tombés au combat dans les tranchées de Verdun, sur les plages du débarquement en Normandie, dans la jungle d'Indochine et plus près de nous et pour n'en citer que quelques-uns dans le désert malien ou dans la vallée de la Kapisa en Afghanistan. Ce matin, place Bir Hakeim, l'ensemble des autorités civiles et militaires étaient présentes pour cette cérémonie de dépôt de gerbes, cérémonie marquée par la lecture par une élève de la classe de défense du collège François Olivo de Porte de Fer de l'ordre du jour du maréchal Foch.
Officiers, sous-officiers et soldats des armées alliées, après avoir résolument arrêté l'ennemi, vous l'avez pendant des mois, avec une foi et une énergie inlassable, attaqué sans répit. Vous avez gagné la plus grande bataille de l'histoire, sauvé la cause la plus sacrée, la liberté du monde. Soyez fiers d'une gloire immortelle. Vous avez paré vos drapeaux. La postérité vous garde sa reconnaissance. Signé Maréchal Foch, commandant en chef des troupes alliées.
La cérémonie de ce matin, place Bir Hakeim, a été présidée par la ministre des Outre-mer, Naïma Moutchou, qui a entamé une visite de 5 jours hier en Calédonie. Naïma Moutchou qui a lu un message de la ministre des Armées et des Anciens Combattants, Catherine Vautrin. Extrait.
Le 11 novembre, la France écoute battre son cœur. Elle se recueille devant les noms de ceux qui ont donné leur vie pour que nous vivions libres. Elle se rassemble pour commémorer la victoire et célébrer la paix. C'était il y a 107 ans. Au fracas des armes succédait le silence des plaines dévastées de Champagne, des vallées de la Meuse, des forêts d'Argonne. Ce silence portait le poids immense de ceux qui étaient morts durant 4 années dans les grandes batailles, couchés dessus le sol ou ensevelis sous la boue. Chaque année, devant les monuments de nos communes, les générations se rejoignent. Unis dans cette mémoire, nous rendons visible l'idéal qui nous tient debout, le sens que nous avons donné à notre histoire, le projet collectif que nous poursuivons par-delà les tragédies. Construire un ordre tel que la liberté, la sécurité et la dignité de chacun y soient garantis, selon les mots du général de Gaulle en 1941. Ce projet porte un nom, la République.
La ministre des Outre-mer qui présidait cette cérémonie aux côtés du haut-commissaire Jacques Billon, du président du gouvernement Alcide Ponga, du sénateur Georges Naturel, du député Nicolas Metzdorf, de la présidente de la province sud Sonia Bekes et du maire de Nouméa Sonia Lagarde, particulièrement marquée par la présence des jeunes des classes de défense.
De voir les jeunes des classes de défense qui sont là, et la ministre l'a dit hier, c'est un devoir de mémoire. Il ne faut jamais qu'on oublie ce qui s'est passé, parce que la guerre est encore à nos portes. Et donc je crois qu'il faut être absolument raisonnable et essayer de faire en sorte que plus jamais, on ait tous ces morts et toutes ces familles qui sont meurtries et ce monde qui vacille. Voilà, donc c'est important d'être là. C'était important qu'elle soit là aussi et important pour tout le monde. Ce devoir de mémoire, on ne doit jamais oublier. Pour regarder vers l'avenir, vous savez, il faut aussi regarder derrière. Et ça permet de comprendre plein de choses. Si on ne fait pas ça, on est à côté de la plaque.
Était également présent ce matin pour cette cérémonie du 11 novembre à Nouméa, le général Aouchine, commandante de la gendarmerie en Nouvelle-Calédonie, la directrice territoriale de la police nationale, le commissaire général Marjorie Ghisoli, les porte-drapeaux des associations patriotiques et d'anciens combattants et le commandant supérieur des forces armées en Nouvelle-Calédonie, le général Soubrier.
Son 11 novembre a été particulier parce que la ministre des Outre-mer était présente, mais toujours un moment émouvant d'avoir cette cérémonie militaire, toujours très sobre. avec cette sonnerie aux morts et cet hommage à tous nos décédés, notamment et plus particulièrement calédoniens, et puis de voir la population rassemblée aussi pour cet événement, et particulièrement touchée de voir les classes défense qui sont attachées aux forces armées en Nouvelle-Calédonie, présentes, ces jeunes, lire l'ordre du jour du maréchal Foch. Et ces jeunes qui étaient présents lors de cette commémoration, c'est toujours un moment très fort.
Les femmes et les hommes des FANC présents tout au long de cette journée lors des différentes cérémonies organisées dans plusieurs communes du territoire. Les forces armées en Nouvelle-Calédonie présentes également aux commémorations à Wallis et Futuna et dans plusieurs pays de la région.
Naïma Moutchou va consacrer le reste de sa journée aux discussions bilatérales avec chacun des groupes politiques. Le premier rendez-vous, c'est avec la délégation du FLNKS qu'elle a reçue à 9h ce matin. Délégation qui comprend Marie-Pierre Chanel Tutugoro, Laurie Oumouni, Dominique Fouchy, Marie-Pierre Goyetch, Jean-Marie Ayawa et Oriane Trollus. Ce premier rendez-vous vient de s'achever. Cet après-midi, la ministre recevra à l'UNI le Rassemblement, les Loyalistes, Calédonie Ensemble et l'Éveil Océanien. Hier soir, Naïma Moutchou a refermé sa première journée de visite par une rencontre au Haut-Commissariat avec les acteurs économiques et sociaux. Pendant 1h30, elle a pu échanger sur la reconstruction et les besoins qu'elle nécessite après une présentation par le directeur de l'IOM de la situation économique très difficile dans laquelle se trouve la Nouvelle-Calédonie. Des échanges qui ont laissé les participants sur leur faim, notamment sur la question de l'aide de l'État, nous a dit Xavier Benoît, le président de la FANC.
On est rassuré parce qu'on a pu dire quel était notre ressenti de la situation actuelle. On a eu une présentation notamment de l'IOM qui trace quand même une image très catastrophique de la situation calédonienne et de l'économie calédonienne. On a une ministre qui, dans ses propos introductifs, nous a partagé le fait que l'économie était au cœur de sa réflexion dans l'accompagnement. Par contre, on est très déçus des réponses finales qui ont été apportées, parce qu'on pense qu'il faut plus de clarté et plus de précision dans l'accompagnement qu'on nous promet de l'État, ou dans l'accompagnement dont on veut nous garantir qu'il est présent pour la Nouvelle-Calédonie.
Cet accompagnement de l'État pour soutenir et relancer l'économie calédonienne reste une question sans réponse. Il faut pourtant maintenant sortir de l'incertitude, explique Bertrand Courte, le vice-président du MEDEF-NC.
L'année 2026 sera l'année de tous les dangers pour l'économie calédonienne. Et l'État ou la mission interministérielle, les deux, ont souvent utilisé les termes de choc de confiance et de plan de relance. Ce que nous avons demandé à la ministre maintenant, c'est de mettre des actions concrètes et de nous dire ce qu'il y a derrière ces termes. Parce que pour l'instant, nous ne voyons pas ce qu'il y a derrière le choc de confiance et le plan de relance. Et aujourd'hui, on n'a plus le temps d'attendre. Il faut nous dire ce qu'il y a derrière, quitte même à nous dire qu'il n'y a rien derrière.
Les acteurs économiques et sociaux restent donc sur leur faim sur l'accompagnement financier de l'État. C'est aussi le sentiment de Christopher Gigès, le membre du gouvernement en charge de l'économie et du budget.
C'était important que la ministre puisse entendre les différents partenaires sociaux, mais bon, à ce stade, les annonces sont insuffisantes. On va dire que c'est le début de sa visite en Nouvelle-Calédonie. Elle a demandé à chacun de faire des propositions. On fera des propositions, mais ce qu'on dit depuis le début, il faut que le soutien de l'État soit concret et matérialisé et que la Nouvelle-Calédonie fasse des efforts. Mais il faut que l'État aussi nous accompagne, pas que seulement après. Et aujourd'hui, pour l'instant, on n'a pas ce type d'annonce.
Vous pensez qu'elle a entendu le message ?
Je l'espère.
Cette réunion avec les acteurs du monde économique s'est évidemment déroulée en présence de Claire Durieux, qui préside la mission interministérielle pour la reconstruction.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure de votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu avec la réponse à notre question d'hier. Vous attendez beaucoup du déplacement de Naïma Moutchou. 80% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS pensent que dans le contexte politique et économique de la Nouvelle-Calédonie, la visite de la ministre des Outre-mer est décisive. Ils sont 20% à être d'un avis contraire. Merci pour votre participation et rendez-vous demain après le 11 novembre pour une nouvelle question du jour. Je vous le disais, Naïma Moutchou a entamé ce matin ses discussions bilatérales. Elle a reçu la délégation du FLNKS, une réunion qui s'est terminée il y a quelques minutes. Écoutez la réaction de l'un des membres de la délégation FLNKS, Dominique Fauchy, au micro de Kélinda Bouakou.
C'est un premier contact avec la ministre. Conformément aux décisions du dernier congrès du FLNKS, on a raffermé nos choses. Que pour nous, le projet de l'accord de Bougival a été rejeté par notre congrès, par nos congressistes. Donc nous, on se situe dans ce cadre-là. En tout cas, le congrès a aussi appelé à continuer le dialogue. C'est pour ça qu'on a rencontré le ministre Valls quand il était venu ici par deux fois. Aujourd'hui, la nouvelle ministre arrive. Donc c'est un premier contact pour lui rappeler la méfiance du FLNKS et la perte de confiance en l'État dans tout ce qui s'est passé depuis le 12 décembre 2021. En tout cas, pour autant, on a dit qu'il fallait continuer le dialogue. L'idée, c'était de reposer un cadre solide pour pouvoir cheminer à la poursuite des discussions. En tout cas, nous, ce qu'on a dit, c'est que les discussions doivent se faire en bilatéral. Ensuite, on pourra envisager la suite après, quoi. Bilatéral avec l'État français. En tant que mouvement de libération nationale, le FLNKS, représentant du peuple colonisé face au pays colonisateur, la France.
Et voilà, il s'agit d'une prise de contact, a donc déclaré Dominique Fauchy, qui souligne qu'à l'occasion de cet entretien, il a été aussi question des passeports et du retour du président du FLNKS. Le FLNKS qui dit attendre des réponses concrètes sur ce qu'il a demandé. L'on rappelle qu'ils ont rappelé que le projet d'accord de Bougival est enterré et attend une méthode sincère pour que le cap ne change pas. Le FLNKS d'aujourd'hui est le même que celui de 1984, a rappelé la délégation. On veut sortir du giron de la République, ont-ils précisé. Il est l'heure de marquer une première pause dans ce journal à midi et 11 minutes avant de voir le reste de l'actualité en Nouvelle-Calédonie. D'autres commémorations du 11 novembre, mais aussi l'éclairage du phare Amédée qui fête bientôt ses 160 ans. À tout de suite.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Un coup de chaud? Pas de souci. À la Quincaillerie calédonienne, on a tout pour rester au frais. Brasseurs d'air, ventilateurs sur pied, muraux, de bureaux ou sans fil, retrouvez notre catalogue ventilateur sur Facebook. La Quincaillerie calédonienne, 13 rue Ampère, à Ducos.
Réartec, votre expert en miroiterie et vitrerie, cloisonnement en verre, crédence, parois de douche. Transformation et pose avec qualité garantie pour professionnels et particuliers. Rendez-vous au showroom à Ducos ou le 28 77 67. Réartec, la transparence au service de vos projets.
Virus, bactéries, stop. Depuis 20 ans, le spray assainissant pur essentiel purifie l'air intérieur tout naturellement. À la maison, au travail, partout avec vous, faites confiance à la force de sa formule brevetée pour éliminer virus, bactéries et limiter les sources d'épidémie. 21 études scientifiques prouvent son efficacité et sa parfaite tolérance. Numéro 1 en pharmacie. Pur essentiel, 20 ans d'efficacité à l'état pur. En ce moment, 20 séjours exceptionnels à gagner à l'achat d'un spray assainissant 20 ans. Date et règlement sur puressentiel.com.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
La suite de l'actualité en Nouvelle-Calédonie est d'abord les faits divers. Alors qu'ils étaient en intervention cette nuit pour éteindre des départs de feu près du lycée d'Ikukewe aux alentours de minuit, les pompiers de Dumbéa ont été victimes de caillassage. Ils ont reçu des projectiles qui ont causé des dégâts matériels sur le camion, mais pas de blessés. Il n'y a pas eu d'interpellation. La gendarmerie communique d'autre part sur une affaire datant de jeudi dernier à Wailou. Une opération de recherche de stupéfiants s'est déroulée à la tribu de Nébé. 1100 pieds de cannabis ont été arrachés. 150 pieds ont également été trouvés à la tribu de Gouareux. Les gendarmes n'ont pour le moment procédé à aucune arrestation car les propriétaires n'étaient pas identifiés. Mais une enquête est évidemment en cours. Le 11 novembre, commémoré donc ce matin place Bir Hakeim, nous en avons parlé en début de journal avec une cérémonie présidée par la ministre des Outre-mer. D'autres commémorations ont eu lieu ce matin, notamment à 8h30 à Lifou. 300 loyalsiens sont partis au front pendant la Grande Guerre. La cérémonie s'est déroulée devant le monument aux morts de Houé, présidé par le commissaire délégué en province des îles, Jules Maloko.
C'est une très belle cérémonie avec une présence forte des jeunes. Nous avons une quarantaine d'élèves de l'école primaire de Louis Chillard. On a eu droit également à la présence de deux classes défense. D'ailleurs, on a eu droit à une exposition qui a été faite par les élèves du lycée qui ont mis à l'honneur plusieurs soldats qui ont participé effectivement à la première guerre. Et effectivement, il y avait le soldat Kalepo qui a été réinhumé récemment sur Tiga. Un moment empreint d'émotion. D'ailleurs, cette année, au cours de cette cérémonie, il y a des familles qui ont souhaité déposer une gerbe à la mémoire de leurs ancêtres, de leurs anciens, qui dont beaucoup reposent d'ailleurs à Velzécomont ou près de Verdun, qui sont restés sur le champ d'honneur. Et ils ont souhaité déposer cette année une gerbe à leur mémoire.
Un détachement des forces armées en Nouvelle-Calédonie a également été envoyé à Lifou pour cette occasion. D'autres cérémonies ont eu lieu ce matin à 9h30 à Farino, à 11h à Pointe-Boute, à 11h30 à Bouloupari. Cet après-midi, elles auront lieu à Dumbéa et La Foy à 16h. Au Mont-d'Or, la cérémonie de dépôt de gerbe aura lieu place des Accords à 17h30. Cette signature de l'armistice du 11 novembre 1918 a également été commémorée dans la région, notamment en Australie et en Nouvelle-Zélande. La correspondance de Jean-Pierre Zajac.
En Nouvelle-Zélande, la plus importante de ces commémorations a eu lieu au mémorial militaire Pukehau de Wellington, où des gerbes ont été déposées afin de rendre hommage aux quelque 18 000 soldats que le pays a perdus pendant la Première Guerre mondiale. D'émouvantes cérémonies commémoratives se sont également déroulées dans toute l'Australie, où la plus importante a eu lieu au mémorial militaire de Canberra, en présence du Premier ministre Anthony Albanese. La princesse Anne, quant à elle, a déposé une gerbe au mémorial militaire de la caserne des transmissions Gallipoli de Brisbane, où elle a achevé sa visite officielle en Australie. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
Revenons en Nouvelle-Calédonie pour parler des 160 ans de l'allumage du phare Amédée, un anniversaire célébré cette semaine par le musée maritime. Pour cette occasion, ce monument emblématique du lagon et de la Nouvelle-Calédonie se part d'un habillage lumineux exceptionel, Léana Colombo.
Oui, le 15 novembre 1865, après 9 mois de travaux, le phare Amédée était inauguré par le gouverneur guyen. Depuis, ce monument est visité par de nombreux touristes, mais aussi des Calédoniens qui sont attirés par le cadre unique et l'histoire de ce phare. Comme il y a 10 ans pour célébrer les 150 ans de l'allumage, la réalisation de l'habillage a été confiée à Laurent Lange, créateur d'éclairage. La technologie n'était alors pas la même. Si auparavant l'éclairage était fixe, cette année ce n'est plus le cas, explique-t-il.
J'ai emmené toute une série de projecteurs qu'on utilise dans le spectacle à LED. Ils peuvent faire toutes les couleurs qu'on veut. Plus 2-3 petits accessoires pour compléter l'habillage. Et donc j'éclaire le phare et puis un peu de végétation entre le phare et la plage. L'idée, c'est pas de faire du sapin de Noël, je déteste ça. Ça va être du mélange. En général, je mets jamais plus de 2 couleurs, plus du blanc. Puis bah, je vais essayer de balayer un peu tout, quoi. Je vais enregistrer des séquences sur une console que je vais faire tourner de façon très lente. Ça va pas bouger en 10 secondes, ça va plutôt être de l'ordre de la minute. Changement assez lent, voilà, c'est ça l'idée.
Pour éclairer le phare, pas de grosse équipe pour tout préparer. C'est Laurent Lange seul qui s'y colle. 2 jours de préparation intense pour que tout soit prêt pour ce soir.
Ce qui est le plus long, en fait, c'est la partie végétation parce que, évidemment, l'îlot étant très fréquenté dans la journée, hier, il y avait vraiment du monde. Donc, je ne peux pas laisser traîner de câbles au sol. Donc, je suis obligé de passer tout en aérien. Et ça, ça prend un temps d'arrivée. Enfin, en termes techniques, ça, c'est quand même pas énorme, quoi. J'avais 4 mètres cubes de matériel, c'est que dalle sur un truc comme ça, quoi. Alors, ça marche, hein. J'ai fait des essais hier soir, ça va. Je me suis posé la question, j'ai eu des petites inquiétudes, et puis hier soir, en allumant, je me suis dit non, ça va, ça marche.
Le phare éclairé pourra être admiré dès ce soir 19h et toute la semaine jusqu'à 22h. Attention, vous ne pourrez pas profiter des illuminations depuis l'îlot. Il faudra donc assister au spectacle depuis la zone de mouillage si vous avez un bateau ou sur les hauteurs du Wentoro. En parallèle de ces illuminations, le musée maritime propose également un spectacle retraçant l'histoire du phare. Un spectacle signé La Compagnie de l'Archipel et qui est à découvrir en fin de semaine prochaine, soit du 21 au 23 novembre.
Et nous reviendrons demain matin sur l'histoire du phare et sur ses festivités en compagnie de la directrice du musée maritime, Valérie Vattier, qui sera notre invitée à 7h30. Une centaine de jeunes catholiques réunis à Saint-Léon à Païta. Il s'agit du deuxième rassemblement des jeunes qui vont participer au GMJ à Séoul en 2027. Depuis samedi, ils travaillent sur le thème « Oser être chrétien ». Des discussions importantes pour fédérer le groupe et préparer ce déplacement en Corée du Sud. Narcisse est le vice-président du comité GMJ.
Durant tout ce week-end, on a découvert des talents. On est sûr qu'avec tous les dons, les qualités que l'on a dans cette délégation, et puis qui représentent très clairement la diversité culturelle de la Nouvelle-Calédonie, on est sûr de pouvoir donner le maximum et de pouvoir partager au monde que même ici en Calédonie, eh bien, on a des chrétiens. C'est vraiment plus qu'un voyage. C'est pas seulement le fait de partir dans un autre pays. Ça va au-delà de ça. On part en tant que délégation, et à partir du moment où on part en délégation, l'important c'est vraiment de se connaître entre nous. On parle pas d'un petit rassemblement, on parle quand même d'un rassemblement qui regroupe des millions de personnes. C'est un rassemblement très conséquent. Dans une foule où il y a des millions de personnes, il faut qu'on apprenne à se préparer physiquement, parce que c'est quand même, on parle des fois de journées où il y a 20, 25 kilomètres que l'on doit faire à peu près tous les jours. C'est un pèlerinage tout le long des journées de la jeunesse que l'on vivra en 2027, et aussi spirituel. Il faudra que l'on puise au fond de nous pour pouvoir apprendre nos frères et sœurs qui sont autour de nous, beaucoup la cohésion, la communication entre nous.
Et le comité JMJ a profité de ce week-end pour fixer les dates des 4 rassemblements prévus en 2026 et des 3 qui auront lieu en 2027 avant le départ pour Séoul et la participation des Calédoniens donc aux Journées mondiales de la jeunesse. Nicolas Sarkozy est sorti libre de la prison de la santé. C'est le premier titre de l'actualité en métropole que nous allons développer dans un instant après une nouvelle pause.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
Et si ton paquet de chips se transformait en billet d'avion?
Attends, quoi? Juste avec des chips?
Pas tout à fait. Crée ton compte sur destinationchips.nc puis scanne les QR codes dans les magasins participants.
Donc plus je scanne et plus j'ai des chances de gagner.
Exactement. Alors fais le tour, scanne un max et prépare ta valise. Tu as jusqu'au 30 novembre pour jouer.
Gagner un voyage pour deux à Sydney juste en scannant un max de QR codes? Mais c'est fin valable! Jeu sans obligation d'achat du 27 octobre au 30 novembre. Plus d'informations sur le Facebook Arnaud Sensei Community. Règlement déposé chez Maître Citrita.
Vous êtes une entreprise, association ou collectivité? Vous réduisez, réutilisez, recyclez les déchets ou vous souhaitez vous lancer dans cette démarche? La Province Sud et l'ADEME peuvent financer votre projet. Pour cela, il suffit de répondre à l'appel à projet Économie Circulaire avant le 14 novembre. Rendez-vous sur le site province-sud.nc. La Province Sud, agir pour l'avenir.
Vous avez besoin de conseils pour faire travailler votre épargne, payer moins d'impôts, préparer votre retraite? Nous sommes là pour vous guider. Avec Caplif, développez votre patrimoine pour construire votre avenir. Contactez Caplif au 28 30 00, RIAS 170 052, ORIAS 13 103.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
La suite d'Infomag avec l'actualité en métropole, on retrouve Jean-François Baudin. Après 20 jours et 20 nuits en cellule, Nicolas Sarkozy a quitté la prison de la Santé où il commençait à purger sa peine de prison à la suite de sa condamnation pour association de malfaiteurs dans l'affaire du financement présumé illégal de sa campagne présidentielle 2007. Lors de l'audience sur sa demande de remise en liberté introduite par ses avocats, le tribunal a estimé avoir des garanties de représentation suffisantes de la part de l'ancien chef de l'État avant son procès en appel prévu en mars. Le commentaire de Maître Christophe Ingrin, l'un des avocats de Nicolas Sarkozy.
Cette décision est une application normale du droit, du code de procédure pénale. La prochaine étape, c'est le procès en appel. Notre travail maintenant, désormais, à Nicolas Sarkozy et à nous, c'est de préparer cette audience d'appel.
Nicolas Sarkozy a pu regagner son domicile où il devra respecter un contrôle judiciaire strict avec interdiction de quitter la France, interdiction totale également d'entrer en contact avec les autres prévenus. Le tribunal a également prononcé une interdiction d'échanger avec Gérald Darmanin. On se souvient que le ministre de la Justice avait rendu visite à l'ancien chef de l'État dans sa cellule de la Santé, une démarche qui avait agacé la chancellerie. L'ancien chef de l'État est donc entré chez lui dans le quartier d'Auteuil à Paris, moins nombreuses que lors de son départ vers la prison. Plusieurs dizaines de proches, de voisins ou de simples sympathisants sont quand même venus l'accueillir à son retour.
Je ne pouvais pas venir quand il partait parce que j'étais en larmes, je n'étais pas bien. C'est quand même un ancien chef de l'État. C'est pour ça que je suis là pour apporter mon soutien.
Moi, je suis tellement heureuse, ça fait 30 ans que je le suis. Je suis contente, je suis presque soulagée. C'est comme si on m'enlevait un poids.
Ses idées m'intéressent, l'homme m'intéresse. Je trouve qu'on ne retrouve plus de personnes comme ça actuellement. C'est une personne, oui, pour qui j'aimerais voter.
Nicolas Sarkozy va donc pouvoir de chez lui préparer son procès en appel. Le droit a été appliqué, a-t-il déclaré après sa libération, a-t-il déclaré sur X, avant d'ajouter « la vérité triomphera ». Emmanuel Macron au centre d'une nouvelle série de critiques. L'émission C'est dans l'air sur France 5 a révélé qu'en 2024, le ministre de l'économie de l'époque, qui était encore Bruno Le Maire, avait dans une lettre portant la mention « secret » alerté le chef de l'État sur la dérive des comptes publics. Lettre qui serait restée sans réponse et sans suite, mais qui provoque aujourd'hui une véritable tempête politique. Alexis de La Fontaine pour Europe 1.
Mensonges, scandale d'État, trahison, les accusations pleuvent contre Emmanuel Macron et Bruno Le Maire. Selon les oppositions, cette lettre prouve que le budget 2024 était insincère, faussant ainsi les élections européennes et législatives qui ont suivi. C'est en tout cas ce qu'affirme le député du Rassemblement National, Guillaume Bigot.
C'est d'une gravité exceptionnelle parce que le lien de confiance entre des électeurs et un gouvernement démocratique, un exécutif démocratique, il est évidemment brisé. Et il est brisé, là, il y en a une preuve, si vous voulez, écrite. Voilà, c'est signé, c'est daté.
Pour le Rassemblement National, cette lettre constitue avant tout une preuve de la responsabilité d'Emmanuel Macron dans le fiasco budgétaire de 2024. On y lit noir sur blanc que le déficit atteindra finalement 5,5% du PIB et non 4,9% comme annoncé officiellement. Alors Bruno Le Maire appelle le chef de l'État à prendre des mesures d'urgence, avertissant que toute stratégie d'évitement est vouée à l'échec. Mais Emmanuel Macron choisira d'ignorer ces alertes seulement quelques semaines avant les élections européennes.
Les faits divers en métropole avec une nouvelle agression contre des policiers. Les faits se sont déroulés à Lorient. Un homme armé d'un couteau s'est rué sur deux agents de police qui ont fait usage de leur arme pour neutraliser l'agresseur qui a donc été tué. Il était connu pour présenter des troubles psychiques. Les policiers n'ont pas été blessés mais sont choqués. Vendredi dernier, toujours à Lorient, une agente de la BAC avait à son tour été agressée et l'inquiétude monte parmi les forces de l'ordre, explique Laurent Baille, délégué Police Alliance à Lorient.
Ça fait beaucoup, hein. Nous, ça fait déjà depuis quelques années où ce genre de fait, malheureusement, c'est de plus en plus courant. Nous avons de plus en plus de collègues blessés en lien avec des armes blanches, hein, des interventions. Ils sont face à des individus virulents et qui veulent, entre guillemets, se faire des flics, tout simplement. Mais ce que j'ai peur, effectivement, c'est qu'un jour, on m'annonce qu'il y a un collègue qui reste sur le carreau et à cause d'une intervention qui tourne mal.
Et dans un message sur X, le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, a salué les deux policiers agressés en parlant de leur courage et de leur réactivité face au danger. Donald Trump pourrait réclamer $1 milliard de dommages et intérêts à la BBC pour diffamation. La chaîne anglaise est dans la tourmente après avoir diffusé un montage tronqué et trompeur des propos tenus par Donald Trump juste avant l'assaut du Capitole en janvier 2021. Montage pouvant laisser à penser que Donald Trump lançait un appel à l'insurrection. L'affaire fait grand bruit. Antoine Bienvaux.
Écoutez bien ces deux extraits. D'abord, celui monté et diffusé par la BBC il y a un an où Donald Trump semble appeler ses militants à attaquer le Capitole.
Nous allons marcher vers le Capitole et je serai là avec vous et nous combattrons comme des diables.
Problème, la réalité est bien différente car voici à présent le vrai discours prononcé par le président américain sans modification.
Nous allons marcher vers le Capitole. Et nous allons encourager nos braves sénateurs et nos membres du Congrès.
Selon le journal de Telegraph, ce montage malhonnête avait pourtant bien été signalé en interne à l'époque sans que la direction ne réagisse. Aujourd'hui, un an plus tard, la chaîne concède une erreur de jugement. Dimanche, le directeur général Tim Davie et la patronne de la chaîne Deborah Turness ont tous les deux démissionné face à l'ampleur des critiques. Le mois dernier, la BBC avait déjà été rappelée à l'ordre pour avoir diffusé en février le témoignage d'un enfant à Gaza, qui s'avérait en fait être le fils d'un haut responsable du Hamas.
Midi 27, la dernière pause dans ce journal. Avant la page au sport, nous parlerons notamment du 7e tour de la Coupe de France de football que l'AS Magenta doit disputer samedi face au FC Mulhouse. Vous entendrez l'entraîneur du club alsacien.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Besoin de chaussures ou de vêtements de sport? Pensez à votre magasin Ozone Sport situé au centre-ville de Nouméa. Venez découvrir les plus grandes marques de sport telles que Nike, Adidas, Skechers et plein d'autres. Ouvert en continu du mardi au samedi de 9h à 17h30. Facebook Ozone Sport.
Vous êtes entrepreneur, vous souhaitez être parfaitement informé avant de prendre vos décisions, vous avez besoin d'être accompagné par des experts, vous voulez être entendu et défendu auprès des institutions et élargir votre réseau, rejoignez la première organisation patronale du territoire sur www.medef.nc. Avec le MEDEF Nouvelle-Calédonie, vous n'êtes jamais seul.
Tout le sport en trois lettres, RRB.
L'actualité sportive, on retrouve Jean-François Baudin.
Et d'abord le tennis, les meilleurs joueurs de la planète se retrouvent à Turin, ils disputent la finale du Masters, Nicolas Legrand.
Oui, la formule est simple, hein. Deux poules de quatre joueurs et on joue la première journée. Cette nuit, Taylor Fritz a pris facilement l'avantage sur Lorenzo Musetti, 6-3, 6-4. Et dans l'autre groupe, Yannick Sinner a battu le Canadien Félix Auger-Aliassime qui a raté l'occasion de prendre sa revanche après la finale du Rolex Paris Masters. Il s'incline 7-5, 6-1.
Et puis nous allons parler football parce que les joueurs du FC Mulhouse sont dans l'avion en direction de la Nouvelle-Calédonie. Les joueurs de ce club de National 3 vont affronter l'AS Magenta au stade Numadelet pour le compte de la 7e tour de la Coupe de France. Ce sera samedi.
Oui, finalement, c'est un retour en Nouvelle-Calédonie pour le club alsacien qui était déjà venu. C'était en 2012 où il avait battu l'AS Lecy 3-0. C'était également pour le compte du 7e tour de la Coupe de France. À quelques minutes de leur départ pour la Nouvelle-Calédonie où l'équipe arrivera ce soir, l'entraîneur de Mulhouse a raconté à notre correspondant à Paris, Xavier Robert, comment l'équipe avait réagi à ce tirage au sort. Écoutez Hakim Abbé.
Bien sûr, les joueurs étaient contents du fait de partir et de vivre un moment ensemble pendant plusieurs jours, de changer de climat, de changer d'un peu d'atmosphère à tous les niveaux. C'est toujours quelque chose de bénéfique. Donc, le club avait fait cette demande-là et on a eu la chance d'être tiré au sort. Donc, on n'y va pas pour passer des vacances puisque l'objectif final est bien sûr de tout faire pour se qualifier, sachant que ça va être, on sait que ça va être un match compliqué puisque cette équipe-là de Magenta, j'ai vu qu'ils avaient gagné contre un gros club, la Coupe de Calédonie qui leur permettait de jouer le 7e tour contre une équipe qui était invaincue depuis 2 ans.
Et on rappelle que Magenta a battu Tiga 1-0 dans les arrêts de jeu en finale de cette Coupe de Calédonie. Tandis qu'en National 3, le FC Mulhouse, l'un des plus anciens clubs de football français qui a perdu son statut professionnel il y a 25 ans, pointe actuellement à la 5e place du classement après 8 journées. Ils évoluent dans un groupe dans lequel on retrouve les réserves pro de Strasbourg, Troyes et Sochaux. Rien que ça, son entraîneur Hakim Abesh résume en quelques mots l'état d'esprit de son équipe.
Nos forces, c'est qu'on est une équipe qui joue. On est une équipe joueuse. Nos faiblesses, c'est que peut-être qu'on est un peu des fois trop joueurs. On a des joueurs qui aiment plutôt courir avec le ballon que sans le ballon. Donc on est une équipe qui va essayer de proposer quelque chose de cohérent. Après, bien sûr, on est aussi pragmatique face à des problématiques que l'on peut rencontrer, soit sur la qualité d'un terrain, soit sur la qualité d'un adversaire, et qui nous permettent aussi de proposer peut-être à l'instant T d'autres choses si on se doit de s'adapter.
Et coup d'envoi de ce 7e tour de Coupe de France de football, samedi à 20h entre Magenta et Mulhouse au stade du Madeleine.
Et toujours à propos de football, signalons que la sélection de Nouvelle-Calédonie ne participera pas une fois de plus à la Coupe de Mélanésie. La compétition s'était déroulée sur le terrain Toa en 2023 et l'année suivante, les Cagous n'avaient pas fait le voyage aux îles Salomon. Cette année, pas de déplacement non plus en Papouasie-Nouvelle-Guinée où la compétition débute aujourd'hui. La Fédération calédonienne de football évoque des raisons budgétaires pour justifier cette décision. Je rappelle que la sélection A de Nouvelle-Calédonie doit disputer en mars prochain les barrages de qualification à la Coupe du Monde. 12h31, c'est la fin de ce journal.